Good afternoon, everybody.
Bonjour, ou plutôt rebonjour. Nous allons enchaîner, reprendre là où on s'est arrêté ce matin. Nous avons terminé notre discussion. C'était le débat général sur ce qu'il convenait de faire. Et comme je l'ai dit avant le déjeuner, eh bien nous allons examiner le document.
Page by page, or probably cut it into smaller pieces depending on what is on the page.
Donc nous allons examiner le document paragraphe par paragraphe, en quelque sorte. Et le principal but de cette discussion sera de traiter les 5 objectifs que nous avons dans le plan stratégique, et c'est vraiment fondamental pour le travail qu'on fera sur le plan stratégique que d'avoir l'avis du comité exécutif. Alors il s'agira de savoir si on a assez d'objectifs, est-ce qu'on en a trop, est-ce que le contenu de chacun des objectifs est décrit de manière satisfaisante. Donc, si on répond à ces questions, ça nous permettra déjà de donner quelques orientations pour le travail qui restera à faire. À la page 2 du document, la première section concerne les décisions fondées sur des faits scientifiques. Bon, il n'y a pas de changement dans ce paragraphe ou dans cette section, donc j'imagine qu'il n'y a pas de commentaires. Donc nous l'acceptons et nous passons à la section suivante. Il s'agit de ce que vous avez au paragraphe 5, page 3, objectifs stratégiques et responsabilités partagées. Et là, nous avons ajouté une phrase pour dire qui a apporté une contribution pour ce qui est de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. C'est-à-dire que nous mentionnons également ceux qui fournissent des projets de renforcement des capacités pour assurer le développement des pays, ou pour les pays en développement. Voilà, c'est ce que nous avons ajouté, c'est en lettres capitales. S'il n'y a pas d'observation, nous passons à la suite. Objectif 1. Donc il s'agit de la totalité du paragraphe 6. Et je voudrais savoir si vous avez des commentaires. Objectif 1. Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il a été placé dans le bon contexte? Vous avez la parole pour des commentaires. Le coordonnateur pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Mon commentaire porte sur le texte du 6, troisième puce. Donc il s'agit en fait du texte qui est en lettres capitales, en majuscule. Comité de coordination OMS pour l'Europe est d'accord pour intégrer d'autres éléments dans le processus de gestion du risque dans le cadre de la gestion de risque. Il faudrait que le codex élabore des recommandations selon lesquelles la gestion du risque devrait être fondée sur l'évaluation du risque et devrait tenir compte également d'autres facteurs légitimes, le cas échéant. Il y avait quelques éléments qui avaient été donnés lors de la dernière session de CC Europe. Il y a notamment des considérations éthiques et écologiques. Par ailleurs, je voudrais également préciser que le rôle du codex pour éviter que l'on induise les consommateurs en erreur semble être sous-estimé dans le processus décisionnel. Et par conséquent, il est important que l'on souligne ce rôle qui est celui de la commission du codex Alimentarius, merci.
Thank you, coordinator.
Je remercie le coordonnateur pour l'Europe. Je vois la pancarte du membre pour l'Amérique du Nord.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, je voudrais dire qu'il ne s'agit que de réflexions préliminaires sur le document et que nous allons partager avec vous. Et pour enchaîner sur ce qui a été dit par le membre pour l'Europe, eh bien, je voudrais essayer de présenter une vision à partir de laquelle on pourrait déduire un certain nombre d'objectifs. Notre vision du Codex à l'avenir serait de continuer de renforcer notre capacité à être chef de file parmi les organismes chargés d'établir des normes dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc, tel qu'il est présenté actuellement, l'objectif 1, on parle ici de cadres réglementaires. Bon, c'est des cadres réglementaires nationaux, donc c'est des cadres qui sont applicables. Et donc, ça laisse entendre qu'il s'agit de cadres réglementaires nationaux. Or, dans la description, on parle davantage de la promotion d'un cadre international de gestion des risques pour les produits alimentaires. Alors, bien sûr, on peut l'utiliser pour élaborer des cadres réglementaires internationaux avec une certaine harmonisation. Donc, si vous voulez, ma remarque porte davantage sur les termes utilisés. Parce qu'on parle de promotion et on parle... il faudrait peut-être parler d'un cadre international de gestion des risques pour les produits alimentaires. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce même objectif 1? Ce n'est pas le cas. Donc j'en conclus que le comité exécutif accepte l'idée qu'on ait cet objectif numéro 1 ainsi que le descriptif, et compte tenu des remarques qui ont été faites par deux délégations, et on en reparlera d'ailleurs au sein du groupe de travail qui va être créé plus tard. Je conclus en tout cas que l'objectif de promouvoir des cadres réglementaires solides, c'est un des piliers, un des grands objectifs de ce plan stratégique. Il n'y a pas eu de proposition de modification, d'ajouter ou de supprimer quelque chose. Et donc, pour ce qui est du reste de la description, si vous voulez, c'est le groupe de travail qui va s'en occuper. Voilà. Si nous sommes d'accord là-dessus, bien je passe maintenant à l'objectif numéro 2, qui contient quelques changements, mais pas beaucoup. Et donc, je vous invite à faire des commentaires sur l'objectif numéro 2. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que c'est trop long ou trop court? Je vois le membre de l'ASIC qui a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Le comité exécutif a ajouté un certain nombre de choses, a supprimé quelques éléments, mais quand je lis le paragraphe 8, on parle des décisions adoptées par la commission du CA. Ensuite, on parle de déclarations de principe relatives au rôle des faits scientifiques, etc. Et ensuite, plus bas, on dit que le CAC assurera leur application harmonisée par les différents organes subsidiaires du Codex. Donc, on encourage ces organes subsidiaires à utiliser pas simplement les principes d'analyse de risque du Codex alimentaire, mais enfin, on encourage également les gouvernements à le faire. Alors, c'est un peu bizarre. Alors, je sais que c'est nous qui avons ajouté cela, mais quand je le lis et le relis, eh bien, je ne comprends plus. Donc, si on veut ajouter quelque chose, il faudrait quand même modifier la totalité du paragraphe. Ou alors, on supprime simplement ce qui a été ajouté.
Thank you, member for Asia.
Je remercie le membre pour l'Asie. On discutera pour voir si la description est bonne. Et en tout cas, pour ce qui est du bureau, nous avons estimé que c'était important pour les décisions parce que ces directives s'adressent également au gouvernement. Donc, il faudrait le dire quelque part. Cela étant dit, c'est vrai qu'on peut toujours rediscuter du libellé. Et maintenant, je donne la parole au coordonnateur de l'Europe. Vous avez demandé la parole?
Thank you, Mr. Chairman. I would like to add only that on behalf of the CC Euro, I would like strongly support the proposed revision of the Goal 2. Thank you very much.
Donc je suis d'accord avec les modifications qui ont été proposées à l'objectif 2. Oui, merci au coordonnateur pour l'Europe. Et maintenant, je donne la parole aux membres pour le Pacifique Sud-Ouest. Merci. J'enchaîne. C'est ce qui a été dit par le coordonnateur pour l'Asie. Et moi aussi, je ne sais plus très bien quel est le rapport entre le goal 1 et le goal. Et entre l'objectif 2 et l'objectif 1, parce qu'il me semblait que ce qui est dit ici est intégré dans l'objectif 1. Donc il faudrait dans les différents objectifs dire précisément quels sont ces objectifs. Notamment distinguer l'objectif 2 du 1. Et donc il faudrait peut-être continuer à réfléchir également à l'objectif 2. Parce que si vous voulez, on peut considérer que l'objectif 2 c'est une sorte de sous-objectif de l'objectif 1. Les éléments de l'objectif 2 sont certainement solides et il s'agit simplement de trouver la bonne forme. Et donc il s'agit de les placer dans leur contexte et donc je crois que le groupe de travail va devoir relever ce défi.
Thank you, member from Southwest Pacific.
Merci aux membres du Pacifique du Sud-Ouest. Le groupe de travail va certainement tenir compte de votre commentaire et va aussi examiner le texte dans son contexte. Pas d'autres propositions concernant l'objectif 2 ? Non ? Eh bien, dans ce cas-là aussi, on conclut que tous les membres sont d'accord pour que l'on conserve l'objectif 2. On a parlé des différents éléments de la description, mais le groupe de travail électronique, enfin le groupe de travail qu'on va mettre en place, va s'occuper du libellé précis. Voilà, merci de vos commentaires sur cet objectif 2 et nous passons au suivant. Objectif 3, renforcer les capacités de gestion des activités du Codex. Des commentaires? Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce qu'il est dans le bon contexte? Est-ce que c'est trop long, trop court? Qu'en pensez-vous? Il y a d'ailleurs dans le texte un certain nombre d'éléments nouveaux qui ont été ajoutés, que vous avez en majuscule. Qu'en pensez-vous?
Member for Europe, please.
Le membre pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir à ce qui a été dit par le membre pacifique du Sud-Ouest, l'objectif 3, c'est le renforcement des modalités de travail du Codex. Et on pourrait à ce moment-là introduire les objectifs 4 et 5 qui vont être considérés comme étant des sous-objectifs de l'objectif 3. Donc potentiellement, on pourrait se retrouver avec 3 objectifs contenant des éléments importants. Donc ça permettrait de réduire le nombre d'objectifs à 3 au lieu de 5. C'est plus facile à comprendre. Bien sûr, la stratégie, ça concerne également le fait de savoir comment le Codex collabore avec d'autres organisations, comment il organise ses travaux avec ses membres. Et donc, si vous voulez, ça nous permettrait d'avoir un chiffre 3 magique, en quelque sorte, mais tout en conservant tous les aspects importants dans le cadre de chacun de ces objectifs. Merci aux membres pour l'Europe, c'est une bonne idée. C'est constructif et on en rediscutera. Cela étant dit, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des objections quant au contenu. Et donc j'imagine que vous êtes également d'accord avec ce qui a été rajouté dans le cadre de l'objectif 3. Et donc on va continuer à en discuter au sein du groupe de travail. Les nouveaux éléments ajoutés sont certainement considérés par tous comme étant importants. En fait, il s'agit d'avoir une certaine flexibilité, enfin des mécanismes flexibles. Et ça permettra à terme d'améliorer l'efficacité. Ensuite, on dit également qu'il faudrait fournir des commentaires en temps opportun. Donc ça, c'est simplement pour assurer une meilleure participation de la part de tous. J'imagine qu'il n'y a pas d'objection. En fait, le contenu de l'objectif 3 a déjà été accepté, j'imagine. Et donc, on pourrait reprendre l'idée proposée par le membre pour l'Europe et on pourrait remanier l'objectif 3 en y intégrant les sous-objectifs 4 et 5. Bon, c'est une idée qu'on peut discuter, mais avant de continuer, je donne la parole au coordonnateur pour l'Afrique.
Thank you, Mr.
Merci, Monsieur le Président. Il faudrait en effet examiner cette proposition visant à intégrer les objectifs 4 et 5 à l'objectif 3, parce que dans ces trois objectifs, il y a plusieurs catégories d'activités proposées. Il ne faudrait pas qu'on perde certains détails. Et donc, conservant l'objectif 3 tel quel, changeons peut-être le titre. Quant au contenu, je suis d'accord, mais enfin, pour ce qui est des objectifs 4 et 5, on y trouve un certain nombre d'éléments qui nous semblent très importants, et par conséquent, il ne faudrait pas les perdre chemin faisant. Merci au coordonnateur pour l'Afrique et je donne la parole maintenant au coordonnateur pour l'Europe. Des commentaires ? Merci, Monsieur le Président. J'ai un texte à inclure que je voudrais proposer. Introduire des procédures pour éviter des situations. Donc, pour éviter de maintenir les normes aux étapes 8 et 9 pour des périodes indéfinies. Ensuite, il faudrait également un mécanisme d'analyse des risques contenant tous les composants d'analyse de risque et notamment une définition claire d'autres facteurs légitimes, car cela est fondamental si l'on veut renforcer les capacités de gestion du Codex. Merci.
Thank you, coordinator for Europe.
Je remercie le coordonnateur pour l'Europe. Nous prenons bonne note de vos remarques. Y a-t-il d'autres commentaires ? Le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Oui, pour poursuivre l'idée du coordonnateur pour l'Europe. Pour poursuivre sur cette idée, eh bien, je dirais que au Codex, une des principales difficultés, c'est justement ces autres facteurs, que ce soit dans le document stratégique ou pas, il faut bien entendu y réfléchir. Mais peut-être que ce qu'il faut faire, c'est réfléchir au cadre nécessaire pour progresser, pour surmonter ces difficultés, parce qu'il y aura toujours un pays qui va bloquer d'autres pays et qui vont attendre certains éléments scientifiques. Et donc, il y aura certains pays qui ne tiendront compte que des éléments scientifiques sans tenir compte des autres facteurs. Donc, je crois que ce serait utile d'avoir un cadre pour surmonter ce genre de difficultés. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait être mentionné dans ce plan stratégique. Alors, ce n'est pas une mince affaire. Pour l'instant, nous bottons en touche. Mais il s'agit quand même d'assurer une plus grande efficacité pour le groupe. Et ce surcroît d'efficacité nous permettra d'avancer dans les 5 prochaines années. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir soit à une solution à ce problème, soit à la mise en place d'un cadre qui permettra à ce comité, justement, d'aborder ce genre de problème.
Thank you. Member from the Southwest Pacific.
Merci aux membres du Pacifique du Sud-Ouest, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, je crois que nous sommes d'accord pour dire que c'est un sujet qui est difficile, mais il faut en discuter pour les réseaux qui ont été mentionnés par le coordinateur pour l'Europe et pour le Pacifique du Sud-Ouest. Et je pense aussi qu'il faudra que dans le plan stratégique, on aborde l'idée d'intégrer au plan le fait qu'il faut travailler sur cette question. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas résoudre le problème dans le cadre de la discussion sur le plan stratégique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un texte, un libellé qui mentionne ce gros problème dont tout le monde est conscient. Et ensuite, il faudrait rédiger des libellés à intégrer au plan stratégique. Maintenant, je ne sais pas si on va régler le problème. Nous savons tous que le problème est difficile à régler. Mais en tout cas, il ne faudrait pas ménager nos efforts pour le régler. Parce que nous savons que c'est un obstacle auquel on se heurte régulièrement. Donc, j'espère qu'on peut se mettre d'accord sur cette façon de procéder. Et dans ce cas-là, ça fera partie des recommandations que nous adressons au groupe de travail, et donc on lui demandera d'étoffer un peu cette idée, donc de travailler sur cette idée que je viens de proposer. Apparemment, tout le monde est d'accord, parce que je vois des têtes qui me font signe que oui. Ensuite, il y avait une divergence quant à maintenir la structure. Est-ce qu'on garde les 5 objectifs? Est-ce qu'on fusionne le 4 et le 5 avec le 3? Alors, pour l'instant, on ne va pas conclure dans un sens ou dans un autre. Nous notons simplement que l'idée a été proposée. On pourra y réfléchir. On verra bien si on va garder 5 objectifs ou 3 en intégrant le 4 et le 5 au 3. Mais je pense qu'il est normal que cela fasse l'objet d'une discussion au sein du groupe de travail qui discutera certainement de la structure de ce document. En tout cas, il me semble que nous sommes d'accord sur le contenu, sur le titre, renforcement des capacités de gestion des activités du Codex. C'est vrai que c'est un objectif qui est toujours important pour le Codex, donc gardons le titre, et ensuite la description, elle devrait tourner un petit peu autour de ce qu'on a dans le texte, tout en tenant compte, bien entendu, de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire tous les arguments qui concernent la structure. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, nous passons à l'objectif 4, promouvoir la coopération entre le Codex et les organisations internationales pertinentes. Et là aussi, nous avons ajouté plusieurs éléments. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous estimez que cet objectif est toujours important? Est-ce que c'est le bon contexte? Est-ce que c'est trop long, trop court? Des commentaires.
I have to say that I take no comments for being acceptance of what we have in the document.
Je veux dire que qui ne dit mot consent, je vous préviens. Le membre pour l'Afrique.
Merci, Monsieur le Président. Ce ne serait pas un commentaire long, c'est juste peut-être pour me rassurer ou combler mon ignorance, parce que je vois ici qu'on met l'accent en ce qui concerne la collaboration, on aussi met l'accent sur la collaboration avec les organismes chargés d'élaboration de normes privées. Si je me réfère au long débat qu'on a eu sur ces normes la fois dernière, surtout un aspect important sur lequel on a tous mis l'accent, c'est que ces normes ne sont pas toujours élaborées sur la base de preuves scientifiques. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui vont garantir que ces normes-là seront élaborées dans les mêmes conditions que le processus mis en œuvre par le Codex? Merci.
Thank you, member for Africa.
Je remercie le membre pour l'Afrique. Oui, vous avez tout à fait raison. On a discuté des relations entre les normes privées et le Codex Alimentarius. C'est la raison pour laquelle on a ajouté ce texte. Alors, je sais que ça suscitera peut-être des controverses. Ça concerne la relation entre les normes privées et le système du Codex, alors ça pose problème parce qu'il y a des divergences. Pour être réaliste, je crois qu'au Codex, on peut essayer d'élaborer des mécanismes qui permettent d'atténuer les éventuels conflits entre les normes du Codex et les normes d'organismes de normalisation privés. En fait, le Codex ne peut pas contrôler les organismes de normalisation privés. Ce n'est pas réaliste, donc je crois qu'il ne faudrait pas prétendre pouvoir le faire, parce qu'il s'agit de deux mondes différents. Un monde, c'est ce qu'on fait au niveau public, donc les normes, c'est les normes qui sont faites par des organisations publiques, et ensuite il y a les normes qui sont élaborées par des organismes privés. Donc ce qu'on veut, c'est éviter les frictions entre ces deux mondes. Donc, je comprends. Enfin, en tout cas, je conclus de la discussion qu'il faudra parler des normes privées dans le cadre du plan stratégique. Et maintenant, on peut très bien le libeller autrement. On en reparlera. Mais avant de tirer des conclusions concernant cet objectif, eh bien, je donne la parole aux membres du CCLAC.
Gracias.
Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec ce que l'Afrique a relevé, dans le sens où ce qui concerne, ce qui inquiète beaucoup de membres du Codex, et qui a déjà été relevé dans d'autres réunions, c'est le fait que le Codex s'éloigne de ses principes pour ce qui est de ses organisations privées. Le Codex peut avoir des réponses qui soient conformes à son mandat, à ses principes et aux normes édictées par la Commission. Dans ce cas-là, aucun rien à dire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que le Codex change de point de vue par rapport aux normes sans l'aval de la Commission. Je ne sais pas si je me fais clair. Les normes privées, dans certains cas, font référence à des questions qui n'ont aucune référence scientifique, aucune base scientifique. Par exemple, déterminer qu'on ne peut utiliser que 3 insecticides, qu'on fixe des limites à 50%, bref, des critères qui n'ont rien à voir avec les critères utilisés par le Codex pour établir des normes scientifiquement fondées. Donc le niveau d'interaction du Codex avec ces organisations privées ne devrait pas amener le codex à agir au détriment de ses propres principes d'établissement des normes. Donc, ces relations, donc le codex, dans le cadre de ces relations, devrait faire en sorte ou inviter à ces normes privées d'utiliser les bases, les fondements du codex pour une meilleure régulation. Merci. Merci aux membres du CCLAC. Je suis sûr que nous nous inquiétons tous des normes privées en raison de leurs effets sur les marchés. Les préoccupations sont probablement divergentes et les solutions envisagées le sont sûrement aussi. Toujours est-il que l'inquiétude reste une et nous la partageons tous. Nous sommes tous d'accord au sein de ce comité pour dire que les travaux du Codex ne devraient pas être influencés par les normes privées. C'est à nous de mener le bal sans être influencés par ces normes privées. Nous, le Codex, la commission du Codex alimentaire, nous élaborons les normes, et c'est pour ça que nous sommes là. Et ensuite, nous nous penchons sur les divers mécanismes que l'on pourrait exploiter de façon à réduire les conflits possibles entre les normes du Codex et les normes privées. Et je suis sûr que nous nous accordons tous à dire que les normes privées devraient toujours s'accorder aux normes du Codex, mais nous savons tous tout aussi bien que ce n'est pas souvent le cas. Et voilà justement le cœur du problème. Mais je comprends bien que nous sommes tous d'accord sur ce point. Il y a de nombreux éléments que nous devons résoudre et voilà pourquoi ils doivent être reflétés dans le texte. Il faut trouver un libellé approprié pour parler peut-être d'élaborer, non plutôt de se pencher sur les moyens d'intégrer ces questions à l'avenir. La conclusion me semble logique quant à la structure du texte qui, ces dernières, sera remodelée. Toujours est-il que cette idée sera présente dans cet objectif 4 de promotion de la coopération, le Codex et les autres organisations. Je vois que le membre pour le Sud-Ouest Pacifique a demandé la parole. Oui, justement sur ce point. Alors, en se penchant sur cet objectif 4, l'idée essentielle consiste vraiment à s'assurer que l'élaboration des normes est un continuum entre le pré et l'assiette. Et il faut prendre cela en compte dans les travaux d'établissement des normes pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille ou de vide dans cette chaîne. Et sans vide, eh bien, justement, cet objectif sera finalement atteint. Et il faut éviter donc ces vides qui pourraient émerger, apparaître au niveau des organisations internationales. Alors, je ne sais pas si les organisations internationales d'établissement de normes privées sont reconnues à un niveau suffisant dans ce plan stratégique. À mon sens, il y a toute une série de priorités que nous pouvons utiliser, que nous pouvons établir dans ce plan stratégique pour éclairer la voie sur laquelle nous nous engageons. Les organisations internationales pourraient parfois être devant nous en matière de progression, d'établissement des normes, mais ce n'est pas un problème. Nous pouvons résoudre la question. Il y a beaucoup de normes sur lesquelles nous pouvons nous concentrer s'il y a une demande internationale pour ces normes. Puisque les normes doivent répondre à des besoins fondamentaux. Et ces organisations, parfois, répondent à ces besoins et nous devons également y répondre également. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une sélection nécessaire pour l'établissement de normes au niveau privé, mais cela doit faire partie, plus générale, de nos priorités. Mais pour ce qui est des travaux que nous réalisons au niveau du Codex, et surtout ce continuum, je crois que c'est ça qui nous intéresse. de manière stratégique. Cela doit apparaître ici. Il faut s'assurer que lorsqu'on travaille avec les organisations sœurs, on ne permette pas l'apparition de vides qui pourraient avoir des conséquences qui peuvent prendre la forme de risques conséquents. Merci aux membres pour le Pacifique Sud-Ouest. Coordinateur pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques commentaires à ajouter concernant l'objectif 4. Il est nécessaire de mettre en exergue le rôle des organisations internationales en prenant en compte le processus de collaboration et l'utilisation des normes privées dans la production alimentaire. Au cours de la session du CCRO, la dernière session, nous avons tenu des discussions très utiles et très fructueuses qui nous ont amené à la conclusion selon laquelle les normes privées pourraient venir compléter les systèmes de contrôle alimentaire, mais pouvaient également engendrer des difficultés au niveau des procédures en raison d'un manque d'harmonisation. Donc, l'établissement, la définition de normes privées dans le comité SPS est une étape nécessaire. De même, le Codex, la FAO et l'OMS devraient poursuivre leur coopération avec le comité SPS ainsi que d'autres organisations, y compris l'ISO, pour ce qui est de leurs travaux sur les normes privées. Merci.
Thank you.
Merci au coordinateur pour l'Europe. Je crois que le membre pour l'Europe avait également demandé la parole, mais avant que je la lui donne, pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, de laisser votre pancarte levée quand vous demandez la parole, parce que si vous vous contentez de l'agiter, on risque de vous oublier. Donc vous avez la parole. Bon, voilà un drapeau, là. Merci beaucoup. Il est très important d'avoir des conseillers avec soi. Alors, quelques points à relever pour moi ici. Monsieur le Président, vous parliez d'opérateurs commerciaux, d'acteurs commerciaux, pour ce qui est des normes privées. C'est une question très importante. Je crois que la FAO a organisé un séminaire sur le sujet en marge de la session de la commission la dernière. En cette phrase, y compris les grands organes de normalisation privée, cette partie de la phrase, est-ce qu'il s'agit de l'ISO, de la Fédération, de l'IOC, est-ce que c'est Nestlé? Je ne sais pas à quoi ça fait vraiment référence. Donc je crois qu'il faut vraiment préciser quels sont les organes auxquels on fait référence avec ce segment de phrase. Donc voilà pour une chose. Au reste, il me semble que je sois toujours d'accord avec le membre pour le Pacifique Sud-Ouest cet après-midi. Mais je pense qu'il est important de reconnaître l'importance de cette question. Et pour le Codex, d'un point de vue stratégique, il faut se demander comment on travaille avec les organisations sœurs et je ne sais pas si il est idéal de comparer les organisations sœurs avec des organisations de normalisation privée. Pourquoi les mettre en parallèle? Je ne sais pas si c'est vraiment le bon choix. Toujours est-il que nous devons nous demander comment on collabore avec ces organisations sœurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, qu'il n'y a pas de contradictions. Je crois que du point de vue stratégique, c'est extrêmement important. Mais je ne diminue en rien l'importance des organismes de normalisation privée ni leur influence. Merci. Merci aux membres pour l'Europe. Donc pour reprendre les commentaires de l'Europe et du Pacifique Sud-Ouest, Nous sommes d'accord pour dire que la coopération avec les autres organisations internationales est notre axe de réflexion principal. Personne ne remet cela en question. Les organismes de normalisation privée sont un élément supplémentaire qui a été identifié au cours des dernières années et qu'il est nécessaire de prendre en compte dans nos discussions par rapport à l'élaboration d'un plan stratégique. Évidemment, d'autres discussions sont nécessaires sur la question puisque les avis divergent. Et je le sais, vu que ce débat dure depuis un certain temps. Et j'ai été très impliqué dans la tenue de ces discussions moi-même. Donc je connais bien quelles sont les positions sur la question. Néanmoins, pour l'heure, je pense que nous devrions inclure ce point comme faisant partie intégrante de la discussion. En soulignant ce qui a été mentionné par l'Europe et le Pacifique Sud-Ouest, à savoir que l'on se concentre sur la coopération avec les autres organisations internationales. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Mais sur ce, je donne la parole à monsieur. Merci. Je suis d'accord avec les commentaires exprimés par le membre du Pacifique Sud-Ouest. Comme vous l'avez dit auparavant, le Codex s'occupe d'un cadre de réglementaire public avec des gouvernements qui adoptent ces normes à titre individuel. Donc des normes privées sont utilisées dans beaucoup d'autres pays. Mais la plupart des problèmes que l'on connaît nous proviennent des pays en voie de développement, où il y a beaucoup de normes privées qui prévalent, et je pense que cette question revêt une urgence particulière. Cela dit, la réponse du Codex, sa capacité à s'adapter aux besoins, grâce aux procédures accélérées qui ont été adoptées au cours des deux à trois dernières années, certaines des normes visées ont pu être adoptées à un rythme plus rapide que l'aurait permis la procédure normale. Donc je crois que le Codex a apporté une réponse valable face aux normes privées. Grâce à la rapidité d'adoption et d'élaboration de ces normes. Merci. Merci, monsieur. Nous allons noter cela pour peaufiner cette partie de l'objectif. Et oui, je peux vous assurer que les normes privées sont une préoccupation aussi bien pour les pays en voie de développement que pour les pays développés. Peut-être qu'ils revêtent des aspects différents. Mais c'est une réalité qu'il reste à prendre en compte. Voilà pourquoi la question est si épineuse. J'aimerais donner la parole à la membre du CCLAC. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit le membre pour l'Europe. Je me demandais d'ailleurs, dans ce processus, quelle devait être l'attitude que le Codex devait adopter. Évidemment, on ne peut pas ignorer les normes privées, et je pense que la question essentielle qui se pose, c'est que derrière ces normes, il y a tout un commerce des normes qui sont certifiées et qui garantissent au gouvernement ou aux importateurs que les produits satisfont à des normes particulières. Le Codex ne pourra jamais le faire puisque le Codex n'a pas de système de certification pour soutenir ces normes. Mais à mon sens, ce qui se passe, et d'ailleurs il faudrait pour l'avenir réfléchir sur ce point, c'est que le Codex dispose d'un très grand nombre de normes. Mais dans certains cas, on peut voir que lorsqu'on parle de normes privées, les gens ont tendance à parler, par exemple, des limites des résidus en oubliant que le codex réglemente les bonnes pratiques, que le codex dispose de codes pour la prévention de telle ou telle chose. Les normes privées, elles, rassemblent dans un seul volet tous les éléments qui sont liés à une chaîne spécifique, donc liés à la prévention des risques. Et ce qui manque au codex, peut-être, c'est un certain degré d'interaction entre l'élaboration des normes et ce qu'a dit le membre pour l'Amérique du Nord et le membre pour le Pacifique, qui nous ont dit de façon très pertinente qu'en réalité, le codex devrait s'axer sur l'élimination de toute lacune, de tout vide, car ce que nous avons pour nous défendre, c'est la différence entre une norme du codex et une norme établie par un autre organe sans aucun fondement scientifique. L'autre aspect, c'est l'aspect de la gestion. Le codex a beaucoup contribué au thème de la question. Dans la question de la certification, on ne pourra jamais dépasser les normes privées, tout simplement parce que le codex ne s'occupe pas des certifications. Donc je pense qu'il est possible de communiquer de façon à diluer le fantasme, le spectre des normes privées et rendre au codex ce qui lui correspond. Je crois que le codex doit comprendre comment fonctionnent les normes privées, mais il le comprend déjà, à mon sens. Ce qu'il doit faire, donc, dans ce processus, c'est d'inviter les organismes d'établissement de normes privées pour partager nos données scientifiques et adopter des mesures déterminées. Le monde a besoin, souvent, donc, du codex de normes codex, puisque ces dernières peuvent donner lieu à des recours devant l'OMC. Donc on ne peut pas gaspiller les efforts d'organisations intergouvernementales, internationales, pour dire comment des organismes privés doivent réglementer, parce que ça, ce serait marcher sur la tête. Dans tous les cas, nous devons essayer d'intéresser ces organes pour qu'ils se penchent sur les activités du codex, pour qu'ils se rendent compte qu'on a une base scientifique forte et qu'on a toute une série de normes qui nous permettent de disposer d'éléments pour contrôler toute la chaîne et gérer les risques tout au long de la chaîne. Merci.
Thank you, member from CCLAC.
Merci à la membre du CCLAC. Vous avez soulevé beaucoup de questions et vous avez tout à fait expliqué le côté très complexe des relations entre le codex et d'autres organismes de normalisation privée. Et je voudrais reprendre surtout votre dernière remarque par rapport à ce qu'on devrait faire. Vous avez dit qu'on devrait essayer d'inviter les organes privés, autant que faire se peut, à prendre conscience et prendre connaissance de ce qu'on fait au niveau du codex et essayer de les influencer le plus possible en les réorientant dans le sens d'un respect des normes du codex au lieu de s'en éloigner pour tous les domaines dans lesquels il existe des normes. Et ces organismes ont des structures très différentes des nôtres et bon, c'est une question très complexe. Je crois que c'est une discussion très large qu'on ne pourra jamais conclure. Mais je suis très heureux que vous ayez soulevé ce point. Je donne maintenant la parole aux membres pour le sud-ouest du Pacifique. Merci. Je crois que c'est un thème très intéressant. Et il ne faudrait pas le passer sous silence. Le problème, c'est que quand on en parle, il faut clarifier de quoi on parle quand on parle de relations avec les organes de normalisation privée. Je crois que certaines des préoccupations dont j'ai entendu parler, qui ne sont pas clarifiées dans le plan stratégique, ce sont les normes stratégiques, les normes internationales que l'on cherche à établir. Car pour ce faire, les normes réglementaires nécessaires minimum pour atteindre cet objectif doivent être là. Sinon, les pays qui n'ont pas de normes peuvent utiliser les normes existantes de façon à pouvoir jouir de produits sûrs qui respectent des normes à moindre coût. Des organisations telles que McDonald's, etc., souscrivent à des normes privées de façon à pouvoir commercialiser un produit en ayant comme argument commercial qu'il est plus sûr. Il ne faut jamais entrer en tant que codex, il ne faut jamais entrer en compétition, en concurrence dans ce type de commercialisation. Il ne faut pas agir en tant que promoteur avec un concept de marque particulier. Ça me rappelle aux États-Unis, à Washington, on avait eu des problèmes avec un programme d'alimentation à l'école. Les médias disaient que la norme appliquée par le FSI était inférieure, était moins sévère que celle de McDonald's. Et moi, j'ai tout à fait compris. Personne ne devrait s'en inquiéter. Et pourtant, le public, évidemment, a fait grand cas de cette prétention dans les médias. Donc, nous, il faut faire très attention aux cadres réglementaires qui sont mis en place et il faut faire en sorte qu'ils soient conformes aux normes établies. Les systèmes réglementaires, si on veut qu'ils soient opérationnels à l'avenir, doivent viser ces entreprises qui utilisent des normes très prescriptives et qui reconnaissent, il faut reconnaître ces normes. Il doit y avoir des moyens de travailler avec ces organismes privés et les entreprises qu'ils soutiennent dans leur propre cadre réglementaire de façon à avoir des arrangements plus propices dans ce cadre. Je crois que c'est vraiment le domaine sur lequel il faudra se concentrer si on veut répondre à la question.
Thank you Southwest Pacific for...
Merci au Sud-Ouest du Pacifique pour ses commentaires. Donc, je conclus qu'on veut conserver l'objectif 4. Nous avons les grandes lignes de cet objectif dans le document. Bien sûr, il y aura davantage de discussions et de travaux qui seront effectués sur le lien entre le Codex et d'autres organisations internationales. Je ne pense pas que ce soit la controverse. La controverse porte plutôt sur les normes privées. En fonction des contextes qui varient à travers le monde. Sur ce, je crois que nous pouvons conclure pour l'objectif 4. Je ne vois pas de demande d'intervention. Donc c'est ce que nous allons faire. Ensuite, nous passons à l'objectif 5, promouvoir la participation maximale et efficace des membres. Là encore, des changements ont été apportés au texte. Encore plus de changements qu'auparavant. Donc nous serions intéressés d'entendre la réaction des délégués pour savoir si on doit maintenir l'objectif 5 et quelles devraient d'être le contenu. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou des choses à éliminer dans cet objectif visant à promouvoir la participation maximale et efficace des membres? Des remarques sur l'objectif et son contenu? Vice-président Niendo. Merci, monsieur le président. J'ai été impliqué dans ce processus, mais en relisant ce que nous avons fait, j'aimerais proposer pour le nouveau point 21, le nouveau point 22 et le nouveau point 24, ainsi que 25, soient regroupés sous l'objectif numéro 3. Merci, monsieur le président.
Thank you, Vice Chairman Indu.
Merci. Donc, vous êtes d'accord avec le texte, mais vous souhaitez que cela soit restructuré. Nous prenons note de cela et on pourra reprendre votre suggestion au cours des délibérations pendant lesquelles nous allons nous demander si on maintient cela, cet objectif, ou si on effectue une restructuration plus en profondeur de cette partie du texte. Pas de demande d'intervention. J'ai vu la pancarte du CCLAC, mais elle ne souhaite plus prendre la parole.
Thank you.
Merci. Donc, nous gardons l'objectif 5 avec les éléments qui doivent lui être ajoutés dans le texte. Nous en avons donc fini avec la discussion des 5 objectifs majeurs. Je crois que vous étiez tous plus ou moins d'accord sur ces objectifs. Il y avait un certain consensus, ce qui est positif pour le groupe de travail que l'on souhaite établir et qui permettra d'envisager d'autres restructurations de ce texte. Donc nous allons passer à la deuxième partie, domaine de programme et activité, planification d'activité pour l'établissement de critères, de mesures. Et j'espère que l'on pourra procéder de façon un peu plus rapide pour cette partie du document, car beaucoup de discussions pourraient être engagées sur ces questions. Alors, s'il y a des points que vous souhaitez véritablement enlever ou ajouter, cela pourrait être utile. Nous serions heureux d'entendre vos avis. Donc, nous allons procéder point par point. Nous allons parcourir ce document. Donc, je vous invite à demander la parole si vous le souhaitez.
Objectif 1.1.1. Examen et élaboration de normes codex de textes apparentés relatifs à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec ce qui a été dit par le membre du Pacifique du Sud-Ouest tout à l'heure. Il y a des phénomènes de changement climatique et qui peuvent modifier la situation en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, mais enfin, il y a également d'autres problèmes qui doivent être pris en compte. Alors, on a quelques exemples entre crochets. C'est surtout des problèmes de protection des plantes, bien qu'il puisse y avoir incidence sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Alors, quand il y a changement climatique, il peut y avoir un impact notamment sur la santé animale. Donc là aussi, ça a une incidence sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires d'origine animale. Maintenant, avec les changements de température, il pourrait y avoir de nouveaux problèmes. Alors, les exemples qui sont cités ici, c'est peut-être pas les meilleurs, donc je ne suis pas certaine qu'il faille les conserver. Merci aux membres pour l'Asie. On les a mis entre crochets justement pour en discuter. Nous voulions indiquer par là que c'était une idée qu'on pouvait développer, mais on pouvait également supprimer ces exemples. Simplement, il s'agit de se déterminer, de décider ce qu'on veut en faire. L'Amérique du Nord. Merci, je voulais faire une suggestion, mais je ne sais pas très bien où. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que c'est un concept qui doit être repris, et ça concerne un petit peu la question des normes privées. C'est la question de savoir quelles sont les normes que nous élaborons. Est-ce que nous nous intéressons vraiment activement à ce que nous devrions faire? Mon sentiment, c'est que nous n'avons pas vraiment un mécanisme que les comités peuvent utiliser lorsqu'ils fixent des priorités. Par ailleurs, on peut se demander s'ils prennent vraiment l'initiative pour réfléchir à ce qui manque. Parce que parfois, il y a des gens qui proposent des idées au comité, ce sont probablement de bonnes idées, mais on n'en tient peut-être pas toujours compte. Donc il faut peut-être essayer de retenir cette idée quelque part dans le plan stratégique. Enfin, il faudrait l'exprimer quelque part dans le plan, je ne sais pas trop où. Merci aux membres pour l'Amérique du Nord. Eh bien, je crois que cette idée est très bonne. En effet, ça a été un des éléments auxquels nous avons consacré une partie de nos discussions. Au bureau, nous avons dit que nous souhaitons que le codex est une... Il est important que le codex est une vision et, en effet, le codex doit pouvoir intervenir ou en tout cas agir tous azimuts en quelque sorte. Je pense que vous êtes d'accord, il s'agit de tenir compte de ce qui peut se présenter comme problème à l'avenir. Donc je pense que ça ne concerne pas simplement la commission ou le comité exécutif, les comités aussi devraient prendre des initiatives et devraient présenter des propositions pour que l'on puisse faire face aux problèmes que nous rencontrons et que nous rencontrerons à l'avenir. Donc en effet, c'est une bonne idée, nous allons prendre bonne note. C'est en effet une des orientations que l'on peut donner au groupe de travail sur lequel il pourra donc se pencher. Merci. D'autres commentaires sur le 1.1? Non. 1.2? Examen. Ou alors examiner et élaborer des normes codex et des textes apparentés pour la qualité des aliments. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on peut supprimer? Il n'y a pas d'objection à ce qu'on conserve? Très bien, donc qui ne dit mot consent comme d'habitude. Merci beaucoup, donc on le garde. 1.3. Examiner et élaborer des normes codex et des textes apparentés relatifs à l'étiquetage des aliments et à la nutrition. Pas d'objection, très bien. Donc on le garde. 1.4. Examiner et élaborer des normes codex et des textes apparentés relatifs à l'inspection et la certification des aliments, ainsi que des méthodes d'échantillonnage et d'analyse.
Sorry, I see no flag. I take...
Je ne vois pas de pancarte, et donc on le garde. 1.5. Supprimer. D'accord? Pas d'objection? Apparemment oui.
Non, le membre pour l'Amérique du Nord. Ce n'est pas un commentaire sur la suppression, mais je ne sais pas très bien comment on en est arrivé à ces activités. Alors, peut-être que c'était logique quand le plan avait été concocté au début, mais je ne suis pas certaine que cela reflète tout ce que l'on veut mettre dans le cadre de nos objectifs. Donc, on discute simplement de ce qu'étaient ces objectifs, mais mon sentiment, c'est que le groupe de travail va recommencer à discuter des activités. Et il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles on sépare la nutrition et l'étiquetage des aliments. Je ne sais pas pourquoi on le fait, mais enfin, j'imagine qu'il y a une bonne raison pour le faire. Attends, je ne sais pas pourquoi, et ça ne me frappe pas comme quelque chose qui doivent être différenciés par comité, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. Merci. Merci aux membres pour l'Amérique du Nord. Oui, vous n'avez pas tort. Bon, je ne peux pas vous dire pourquoi on l'a fait, parce que mes souvenirs ne sont pas meilleurs que les vôtres, mais je comprends tout à fait votre argumentation. Alors, en effet, on pourrait peut-être regrouper les deux en fonction du contexte éventuellement, mais c'est en effet quelque chose qu'on pourrait faire. Alors, merci de votre argument et de votre remarque qui me semble tout à fait claire. Donc, on accepte, le comité exécutif accepte la suppression du 1.5. 1.6, il a également été supprimé. Je pense que le 1.6 est superflu, il n'y a pas de réaction, donc j'imagine que les membres du comité exécutif sont d'accord pour supprimer le 1.6 et nous passons au 1.7. En fait, non, il y a un problème de numérotation. On va laisser tomber le 1.7, mais le nouveau 1.6 est beaucoup plus intéressant. Là, c'est un texte que nous avons ajouter, ça concerne la morbidité du groupe de référence épidémiologique. Donc la morbidité des maladies liées aux aliments. Le membre pour l'Asie. Oui, à la fin on dit que la FAO et l'OMS devraient rendre compte aux CCEXEC et au CAC du nombre de membres ayant réussi à contribuer, de nouvelles données, etc. Mais en fait, dans beaucoup de cas, pour ce qui est du JMPR, ceux qui fournissent les données, ce sont des fabricants de pesticides, ce n'est pas le pays. Et cela est vrai également pour les médicaments vétérinaires et pour les additifs alimentaires. Par contre, pour les contaminants, ce sont les États membres qui fournissent la majorité des données. Et donc, ma question est la suivante. Étant donné qu'on ne parle que du nombre de pays membres, alors comme dit dans de nombreux cas, il ne s'agit pas simplement des pays membres, mais également des fabricants, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter le mot « fabricant » ? Merci aux membres pour l'Asie. Donc vous voulez ajouter un élément, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des données qui sont fournies par d'autres que par les gouvernements. Ça me semble logique. Oui, il s'agit en fait des données pour des questions qui sont discutées par les groupes d'experts. Parce que comme dit, les fournisseurs de données ne sont pas limités aux pays. Il n'y a pas que les pays qui fournissent des données. Oui, il me semble que c'est intéressant, mais peut-être que l'OMS n'est pas d'accord. L'OMS. Oui, c'est vrai que le mot « données » dans ce paragraphe n'est pas très clair pour moi.
Il s'agit pour la presse d'examiner la morbidité des maladies liées aux aliments. Il s'agit également de fournir aux pays membres un protocole qui permet à l'État membre d'estimer la morbidité de ces maladies liées aux aliments. Donc voilà quel était le but du FERG. Donc ces données, ça concerne les estimations qui ont été faites par les pays et ça permet à l'OMS éventuellement de voir quelles sont les activités qui ont été faites concernant les faits scientifiques. Enfin, je ne suis pas sûr, donc ce que j'aimerais, c'est avoir une précision concernant le sens du mot « donné » dans ce contexte. Merci à l'OMS. C'est un texte qui doit être remanié. Il y a peut-être des éléments qu'on n'avait pas très bien compris quand on a rédigé le texte au bureau, mais ce qui est important, c'est que nous sommes d'accord pour que cet élément soit inclus et que ça devienne une activité. Bon, ça concerne notamment les relations entre ce groupe FERG, ce groupe de référence, la FAO et l'OMS. Et donc ma conclusion, c'est qu'il faudrait garder le texte, mais il faudrait l'affiner. Et donc on va le remanier et revoir et corriger son libellé. Merci. Point 1.8. Publier et diffuser le Codex Alimentarius. Je pense que c'est une activité traditionnelle qu'il ne faudrait pas oublier, donc on la conserve. Pas d'objection, nous passons à l'objectif 2. Promouvoir l'application la plus large et la plus cohérente possible des principes d'analyse des risques. On a supprimé le premier paragraphe, le 2.1, il n'y a pas de commentaire ? D'accord. 2.2, examiner les principes relatifs à l'analyse des risques élaborés par les différents comités codex. Des commentaires? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'intéressant dans un plan stratégique? On le garde? Nous avons en majuscule un texte entre crochets. Il appartient au comité exécutif de décider si et comment cette activité doit être incluse, étant donné qu'elle est actuellement prévue pour être achevée pendant le plan stratégique, jusqu'à l'échéance du plan stratégique actuel. Alors, je ne sais pas si on le conserve, mais ça devrait s'achever pendant ce plan stratégique. Enfin, on ne sait pas si ça va être fait ou pas. Le CCLAC. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour ce qui est de l'examen plan stratégique 2008 et 2013, eh bien, l'Argentine avait dit qu'il y avait une incohérence concernant les travaux qui étaient faits pour réviser les principes d'analyse des risques. C'était pour le comité des pesticides. Parce que justement, on est en train d'examiner la cohérence par rapport aux principes d'analyse des risques du Codex. Et donc, c'est vrai, on n'a pas changé la date. Alors, maintenant, est-ce que cette activité prendra fin pendant ce plan stratégique? Nous ne le savons pas. Donc il faut en tenir compte et dans tous les cas, je pense qu'il faut garder les crochets. Parce que si ce n'est pas terminé, eh bien, en fonction des résultats obtenus, il faudra que ça se poursuive dans un prochain plan stratégique. Merci.
Thank you, member from CCLAC, but I think...
Je remercie notre membre du CCLAC. Et oui, ce que vous dites, c'est exactement la décision qu'il faut prendre. Est-ce qu'on le supprime parce qu'ils sont censés finir pendant cette période du plan stratégique? Ou alors est-ce que nous disons qu'il faut le conserver? Et à ce moment-là, il faudra changer l'échéance. Parce que vous avez tout à fait raison, il y a une contradiction dans le texte. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons mis cette note entre crochets. C'est-à-dire qu'il appartient au comité exécutif de prendre une décision à ce sujet. Le membre pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Oui, on en a discuté. La dernière fois qu'on a discuté le plan stratégique actuel, Et notre conclusion, c'est que on allait demander aux différents comités de nous dire quand ils avaient l'intention d'achever leur travail. Mais je me souviens aussi, je regarde un petit peu dans mes documents, je me souviens aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de comités, deux ou trois. Or, la liste qu'on donne ici me semble être un petit peu plus longue. Bon, c'est une question qui est importante. Et je crois que le principe général devrait être que si on met quelque chose dans ce plan stratégique, eh bien, il faudra que ce soit mesurable. Et il faudra que le comité exécutif puisse également demander au comité de rendre compte. Alors, j'ai pas de proposition à faire pour ce qui est de la date d'achèvement, parce que dans certains comités, ça va se poursuivre. C'est un travail qui va être fait au-delà de 2013. Mais néanmoins, il faudrait peut-être prévoir une date ou alors une période d'examen pour le CC exec, comme dit. J'ai l'impression qu'on a rallongé un peu la liste des comités. Donc, je pense qu'il faudrait demander aux comités qui sont mentionnés dans le plan stratégique actuel, il faudrait leur demander de rendre compte, si vous voulez, ou d'achever leur travail dans le cadre de la période du plan actuel. Quant aux autres, ce sera dans la période du plan futur. Oui, donc il faudra leur demander s'ils ont achevé leur travail. S'ils ne l'ont pas fait, eh bien, à ce moment-là, on en reparlera l'année prochaine dans le contexte du prochain plan stratégique. Merci. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment prendre cette décision maintenant de conserver ou de modifier le plan. Parce qu'en fait, nous avions déjà décidé auparavant que nous voulions poser la question aux différents comités pour qu'ils fixent une nouvelle échéance pour la poursuite de ce travail. Donc, on pourrait peut-être simplement mettre ce 2-2 entre crochets. Et on pourrait dire qu'on en reparlera. On en reparlera plus tard parce qu'on ne prend pas de décision sur ce document aujourd'hui. C'est une première lecture que nous avons du document actuellement. Il y aura peut-être davantage d'informations la prochaine fois, donc ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc pour l'instant, on se contente simplement de mettre le doigt sur certains problèmes, mais enfin, on n'est pas encore là pour prendre des décisions. Est-ce que vous êtes d'accord? Le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je regarderai le titre « Promouvoir l'application la plus large et la plus cohérente possible des principes d'analyse risque ». Donc, c'est les principes élaborés par les différents comités du Codex. Alors, ça concerne notamment l'élaboration des principes d'analyse des risques. Ensuite, deuxièmement, il y a l'objectif lui-même, c'est-à-dire l'application de ces principes dans tous les comités du Codex. Et donc, quand je lis le titre, ça n'est pas clair pour moi. Est-ce qu'il y a là une activité qui manque? Est-ce que nous savons dans quelle mesure ces principes sont appliqués de manière cohérente et systématique par les comités? Moi, je n'ai pas le texte à proposer, mais enfin, il me semble qu'il manque quelque chose dans ce titre. Il faudrait peut-être parler de l'évaluation. Ou alors, il faudrait peut-être mentionner l'idée qu'il faudrait déterminer dans quelle mesure ces principes ont été appliqués de manière systématique. Merci. Merci aux membres du Pacifique du Sud-Ouest. Merci beaucoup de votre intervention. Vous avez tout à fait raison, je crois. Et pour l'essentiel, vous avez raison, nous n'avons pas de mécanisme pour évaluer. Si on veut inclure des activités mesurables, à ce moment-là, il faudrait y réfléchir. Tout comme le membre du Pacifique du Sud-Ouest, nous n'avons pas de proposition à faire, mais enfin, on prend bonne note de cet élément auquel il faudrait réfléchir pour voir si on peut rédiger un libellé qui nous permettrait de refléter l'idée que vous proposez. Donc, en effet, c'est quelque chose à faire, et donc, je pense qu'il faut retenir votre idée qui me semble excellente. Ma conclusion, donc, concernant le 2-2, c'est qu'on va mettre la totalité du paragraphe entre crochets. On en reparlera en fonction de l'évolution du reste du processus. Et nous prenons note également de la nouvelle idée, donc ce sera un point supplémentaire qui vient d'être proposé par le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Et donc, on en tient compte pour en discuter par la suite. Et maintenant, je vous propose de passer aux 2-3. Améliorer la communication entre les différents organes subsidiaires du Codex ainsi que les organes d'experts scientifiques de la FAO-OMS. Est-ce que c'est une activité qui est toujours importante? Oui, d'accord. Pas d'objection. Donc on garde. Et nous avons un nouveau point 2-4. Encourager les pays à collaborer avec le groupe de référence épidémiologique la morbidité des maladies liées aux aliments, enfin bon, le FERG. Et de sorte à générer des données, etc. Donc on en parlait déjà. Donc si vous êtes d'accord, bien on va garder ce texte également et puis on verra bien si le libellé est correct ou pas. Il n'y a pas d'objection, donc j'imagine qu'on va le garder. Et on passe au 2.5, encourager les pays à transmettre leurs avis scientifiques ou leurs demandes d'avis scientifiques à la FAO-OMS par le biais de la commission du Codex Alimentarius. Pas d'objection, très bien. 2.6, encourager l'OMS et la FAO à fournir une formation et un renforcement des capacités relatifs à l'analyse des risques pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Pas d'objection, il n'y a pas de réaction. Très bien, donc on garde. Et nous en arrivons maintenant à l'objectif 3.
I'm just seeking advice.
J'étais en train de demander un avis sur une des choses les plus importantes, c'est-à-dire la pause café. Et donc nous avons décidé ensemble que ce serait maintenant. Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on arrive à l'objectif 3, donc c'est maintenant qu'on va faire la pause café. Alors, la séance est suspendue pendant quelques minutes. Vous avez la possibilité de prendre un thé ou un café, de vous détendre un petit peu. Et donc, nous allons reprendre à 16h15, dans un quart d'heure, 20 minutes. Merci, à tout de suite.
I'm just seeking advice on the most important,
Me gustaría que me dijeran algo. Muy importante la pausa para el café. ¿Cuándo? Y hemos decidido unánimemente que sea ahora. Antes de pasar al punto 3, al objetivo 3, levantamos la sesión unos minutos para que tomen café, descansen y volvemos a las 4:15. Por favor, sean puntuales. Gracias.